Allô?
Vous écoutez le balado de l'Association des écrivaines et écrivains québécois pour la jeunesse.
Je suis Amélie Bibeau, auteure pour la jeunesse et présidente de l'AEQJ pour l'année 2021-2022. À chaque épisode, je rencontre deux écrivaines et écrivains, membres de l'AEQJ, pour qu'ils me présentent un de leurs livres. Nous aborderons ensemble certains sujets en lien avec la littérature jeunesse. Je vous invite à les découvrir avec moi.
Dans cet épisode, nous rencontrons Sophie Huard, avec qui nous allons jaser d'enquête, d'intrigue et de voyage. Elle nous expliquera ce qui l'a amenée à écrire sa série « 7 jours tout inclus » et pourquoi elle a fait le choix de s'adresser aux jeunes lecteurs. Mais tout d'abord, Marie-Hélène Jarry nous présente son roman « Les carnets de novembre » où il est question de suicide. Comment aborde-t-elle un sujet aussi lourd? C'est là que nous verrons l'importance de bien choisir ses mots. Elle nous confie également quelques secrets. Restez à l'écoute. Marie-Hélène Jarry est née à Montréal et y a vécu la plus grande partie de sa vie. Après un baccalauréat en lettres françaises à l'Université McGill et une maîtrise en littérature québécoise à l'Université de Sherbrooke, elle s'est dirigée vers la traduction, où elle a fait carrière pendant de nombreuses années. Attirée par la fantaisie offerte par le livre jeunesse, elle s'est aventurée dans ce territoire et, à la fin du siècle dernier, a publié ses premiers albums. Avec le nouveau millénaire et l'entrée de ses enfants dans l'âge adulte, elle a eu le goût de se remettre en route et d'explorer de nouveaux genres, dont la poésie et le petit roman.
Alors bonjour Marie-Hélène Jarry, j'espère que ça va bien.
Bonjour, oui, ça va très bien aujourd'hui, oui.
Génial. Alors, on est ici pour parler de ton tout dernier roman, Les carnets de novembre, publié chez La Courte Échelle. Alors, j'aimerais ça qu'on commence justement par un petit aperçu de ce que c'est, là, ce beau roman-là.
Bon, OK. Je vais essayer de vous donner un petit aperçu avec quelques petits détails. Alors, c'est une histoire où on suit deux personnages en parallèle. On a d'abord Marjorie, une adolescente de 12 ans. Marjorie qui, un jour, va acheter un carnet à la papeterie. Quand elle en choisit un, elle décide de tester l'épaisseur du papier en écrivant une petite phrase, parce que pour elle, c'est très important. Alors, elle en griffonne une. La première chose à laquelle elle pense, c'est la première neige aujourd'hui. Alors, tout va bien. On ne voit pas le trait du stylo à travers, mais petit détail, le carnet n'est pas de la bonne couleur.
Oups.
Elle ne voulait pas un carnet vert fluo. Absolument pas. Elle préférait le vert forêt.
Oh là là!
Ah oui! C'est pas pareil. Alors, elle le remet. Et là, un peu honteuse, elle se dit, oh, je suis mieux de revenir demain pour l'acheter. Je vais essayer de me faire oublier. Alors, elle retourne le lendemain et là, oh surprise, quelqu'un a répondu à sa phrase. Alors, dans les jours qui suivent, là, elle se trouve des prétextes pour retourner à la papeterie. D'abord, elle est retournée pour acheter son carnet, mais ensuite, elle est curieuse. Alors, elle veut voir s'il y a eu d'autres messages à la suite du sien. Et oui, à chaque visite, elle en trouve un nouveau. Elle répond, elle laisse le carnet et chaque fois, elle trouve un message. Alors, elle est très intriguée, évidemment, mais au fil des messages, elle se rend compte que les messages sont assez sombres, deviennent de plus en plus sombres dans leur sujet et le ton. Et elle se demande s'ils ne cachent pas quelque chose comme un appel à l'aide. Il y a beaucoup de détresse dans ces messages-là.
OK, fait que ça augmente dans le fond.
Oui, ça va en augmentant. En parallèle, alors là, on a l'histoire de Théo.
OK.
Théo, 13 ans. Théo écrit dans un carnet bleu nuit, qui est en quelque sorte son journal. Et c'est là qu'il livre ses pensées les plus intimes, évidemment. Là, c'est son journal. Sa vie difficile à la maison, sa solitude, beaucoup de tristesse. Il cite des extraits de poèmes et de chansons des colocs.
Là, dans le roman, c'est ça qu'on a de Théo. C'est ça son journal intime.
Okay. Oui, on passe au chapitre Carnet bleu nuit.
Okay.
Avec chaque jour où il fait une entrée dans son journal.
Tandis qu'avec avec Marjorie, c'est plus la narration.
C'est une narration, oui, à la troisième personne.
Ah oui, OK, en plus, wow, il y a vraiment deux tons. Là, très, très.
Oui. Ah oui, pour bien faire la différence. Mm-hmm. Là. Mais c'est quand même toujours le point de vue de Marjorie.
Oui.
Là. C'est une narration au L, mais très proche de ses pensées.
Mm-hmm.
Voilà qu'à un certain point, dans son journal, Théo mentionne le carnet vert fluo qu'il a découvert à la papeterie. On découvre alors, en même temps que lui l'écrit, que c'est lui le mystérieux correspondant de Marjorie.
Et on a accès aussi, j'imagine, à leur conversation. C'est qu'il y a un chapitre, Marjorie.
Oui, oui. On sait quel message Marjorie a laissé. Théo reprend un petit peu plus haut parce que je ne voulais pas le livrer dans les chapitres de Marjorie. Je voulais garder quand même un élément de surprise. Alors, ils sont un petit peu décalés, mais c'est quand même facile à suivre les dates et tout. Alors, pendant que Léo, lui, livre ses pensées dans son journal, Marjorie, bon, on passe vers un chapitre de Marjorie, elle, ben, commence à se démener sérieusement pour découvrir l'identité de son correspondant ou sa correspondante, elle ne sait pas. Et pour cela, elle fait appel à sa meilleure amie, Dina. Elle lui explique là, qu'il faut vraiment agir vite parce qu'un des messages de Théo disait justement, en réponse à son tout premier message, il disait « Ici, c'était la dernière neige. »
Oh, ben là.
Ouais. Alors, Marjorie a compris que dans le fond, il voulait dire « Il n'y aura pas de prochaine neige pour moi.
Mm-hmm. »
Les deux se mettent à déployer des trésors d'imagination pour retrouver le correspondant par toutes sortes de moyens, plus ou moins habiles, dont...
espionner.
Oui, questionner, sans rien dire, sans rien révéler de ce qu'ils cherchent, mettre une affiche, un avis de recherche. Sur un poteau, envoyer bien des textos. Et plus on avance, plus c'est la soupe se réchauffe parce qu'on annonce finalement une tempête.
Oh.
Alors là, il faut agir parce que le message disait « Et si c'était la dernière neige pour lui, il n'y en aura pas d'autre. » À la prochaine, là,
c'est ça.
Il sera peut-être plus de ce monde. C'est comme ça que Marjorie et son amie Dina l'interprètent.
Ben oui.
Alors, la tempête arrive plus tôt que prévu.
Oh non!
Oui. Elles avaient déjà un autre petit plan, mais celui-là, alors, il tombe à l'eau ou à la neige. Marjorie, bien, est complètement désespérée. Elle pense que tout est fini. Et ce jour-là, le fameux matin de la tempête, elle sort. Et de façon tout à fait inattendue, elle tombe sur Théo, dont elle ne sait pas encore qu'il est le correspondant.
Okay.
Mais elle engage une conversation avec lui. Et là, grâce à certains indices, par exemple la musique qu'il écoute, c'est Dina qui fera un lien entre...
Okay.
Les colocs, les paroles des colocs qu'il a laissées aussi dans le carnet vert fluo. Dina, qui connaît bien la musique des années 80, grâce à ses parents, fait le lien. Et bon, c'est ainsi que les deux peuvent se retrouver finalement. Je ne dirai pas, je ne vous raconterai pas la
fille. Non, mais non.
Mais disons que Théo est aussi heureux qu'elle de l'avoir trouvée, cette Marjorie, cette fille qui lui a permis de s'ouvrir et d'avoir l'impression de communiquer avec quelqu'un au moment où il est le plus malheureux.
Oui, parce qu'il y avait quand même son journal intime, mais un journal intime, c'est pas comme, tu sais, on se parle à soi-même, on parle pas nécessairement à quelqu'un. Pour avoir tenu un journal intime pendant toute ma vie, j'allais dire pendant X années, c'est juste que je le tiens moins, là. Mais journal intime, j'ai tenu, commencé à 10 ans. Et je dirais que jusqu'à mes 30 ans, j'étais très, très, très assidue. Mais à 30 ans, j'ai commencé à publier des romans. Là, je suis beaucoup moins dans le journal intime, beaucoup plus dans la fiction. Mais j'utilise quand même énormément, là, ces journaux intimes-là. Fait que là, dans le fond, ce que je comprends, c'est que c'est toi aussi, t'as tenu un journal intime.
Exactement. Okay. Oui, t'es pas mal perspicace.
Ben oui.
Oui. D'ailleurs, je l'ai consulté pour...
Oui?
Oui. Pour certaines réflexions de Théo, oui.
Oui, c'est ça.
Et je me suis aussi basée sur des réflexions d'adolescents troublés que j'ai connues dans ma vie.
OK.
Alors... il n'y a pas grand-chose, finalement, que j'ai vraiment inventé
du côté
de Théo. C'est ça. Donc, juste pour terminer, pour montrer que Théo voit vraiment une lueur d'espoir dans cette rencontre-là avec Marjorie, il dit dans son carnet, « Si un jour on me demande où j'ai rencontré Marjorie, je pourrais répondre dans un carnet. »
Ah, c'est beau!
Et voilà!
Puis là, ben, j'imagine que c'est peut-être un punch, mais on se demande qu'est-ce qui se passe avec le carnet à la fin. Mais bon, ça, c'est peut-être juste moi.
Ah, oui,
mais ça, c'est ça, c'était un punch. On n'en dévoilera pas plus pour ça. Mais j'aimerais revenir sur les journaux intimes, puis sur le fait de s'inspirer de ce qu'on connaît, justement, de notre vie personnelle. Puis je me demandais comment tu gères ça. Là, tu viens de le dire publiquement. Oh! C'est ça, moi je le dis publiquement, ça fait des années, tu sais, puis je ne suis pas toujours super à l'aise avec le fait que les gens sachent que, mettons, dans Lily la Lune, il y a beaucoup de moi, mais ça reste que c'est ça, puis c'est vrai, puis, mais en même temps, j'arrête pas de dire, mais c'est pas mon histoire, mais c'est pas mon histoire. J'ai demandé comment toi, que tu vis avec ça, est-ce que tu en parles ouvertement, tu sais?
Je l'ai mentionné à certaines personnes. Okay. Quand j'ai le goût de le dire, je le dis. C'est pas quelque chose que je cache parce que finalement, c'est assez normal de faire ça.
Ouais.
Ce qui est drôle, c'est qu'on se reporte à des années, là, des décennies antérieures. Alors, je pense que c'est sur le coup que c'est peut-être un peu plus difficile de dire « Ouais, est-ce que je veux vraiment écrire ça? Mm-hmm. » Bon, des fois, on peut modifier un peu, moduler ce qu'on a lu. Mais j'ai trouvé ça très, je ne sais pas si c'est libérateur, mais en fait, c'est un exercice que j'ai beaucoup aimé. Et à savoir, bon, quand les gens liront, ils ne pourront pas savoir exactement ce qui vient de
absolument
moi.
Absolument pas.
Et bon, c'est un jeune homme avec des préoccupations très différentes de celles que j'avais jeune. Alors...
Oui, puis c'est pas la même époque, mais moi, ce que je trouve formidable là-dedans, c'est que je me rends compte que ça change pas tellement les préoccupations. Tu sais, oui, il y a les réseaux sociaux que moi j'ai. Ben, moi, j'avais même pas un ordinateur chez nous, là. Fait que tu sais, je suis en la quarantaine, là. Fait que j'ai eu un ordinateur, j'étais au cégep. Donc, les réseaux sociaux, on n'y pense même pas, là. On avait le courriel, mettons, puis c'était ça, là. Puis sinon, c'était le téléphone. Puis on passait des heures et des heures au téléphone. Mais tu sais, sinon, les préoccupations, tu sais, au niveau des amours, tu sais, tout ça, là, tu sais, c'est les mêmes, là, ça reste les mêmes, tu sais.
Exactement. Oui. L'étalage de tout ça dans les réseaux, j'ai peut-être un peu de difficulté. Je pense que c'est mieux de communiquer avec certaines personnes.
Ouais.
Oui. en particulier, choisir ses confidents. Mais bon, on est à une autre époque. Même pour
Ouais.
toi, même pas pour tes
Oh, ouais,
jeunes.
absolument, absolument. C'est ça, j'ai un jeune garçon, puis là, je le regarde de grandir et je me dis, ouf, je suis un dinosaure. C'est ça, là. Je comprends pas tout, là, ce qui se passe.
Un jeune dinosaure.
Ouais, je vois. Mais c'est parce que c'est ça, on comprend pas. Il y a des choses qui changent pas. J'entends son discours qui est exactement le même il y a 8 ans, tu sais. Fait que c'est le même sur beaucoup d'aspects, là, tu sais, les chicanes d'amis, les gangs à l'école, ça se ressemble énormément.
Oui.
Mais tu sais, tout ce qui est, je veux dire, je comprends pas qu'il puisse écouter YouTube puis regarder quelqu'un jouer à des jeux vidéo pendant des heures. Moi, je trouve ça archi ennuyant. Et lui, il pourrait faire ça à la journée longue, tu sais. Ça,
Oui.
c'est ces bouts-là, tu sais, je suis comme, va dehors. Moi, je faisais des cabanes dans
Oui,
le bois,
oui,
tu sais.
oui, oui,
Ça, c'est
oui. Oui.
difficile comme parent, là,
Au
mais...
lieu de lui-même jouer aux jeux vidéo, il préfère regarder quelqu'un qui joue.
Ouais.
Je comprends pas.
Non, c'est ça, c'est
Non.
fascinant. Mais sinon, les préoccupations, tu sais, c'est pour ça que utiliser son journal intime, je trouve ça vraiment fascinant aussi. Puis ça permet de se rappeler c'était quoi à cette époque-là. On
Oui.
n'a pas
Oui.
le même raisonnement à 40 ans qu'à 15 ans, tu sais, ou 12 ans, là, dans le temps de
Exactement.
Marjorie. Tu sais,
Oui.
comme tu dis,
Oui.
Marjorie, tout de suite, tu sais, c'est la panique. Puis elle voit que quand la tempête s'en vient, elle comprend tout de suite, elle comprend qu'il ne se rendra pas à la prochaine tempête qui va passer à lac. Mais comme
Exactement.
adulte, on sait que ça peut être juste une image. Puis là, ça m'amène à parler du choix des mots. T'sais. Là, j'ai choisi ça, je ne me rendrai peut-être pas, mais c'est une image qui
Oui.
donne. Peut-être que dans sa tête, la prochaine neige, c'est l'année prochaine. Ça ne
Oui.
veut pas dire que c'était
Oui.
vraiment la prochaine tempête là. Mais Marjorie, elle, dans sa tête, c'est clair et net et précis.
Oui. Ben, elle a
À
compris
12 ans.
quelque chose. C'est sûr que j'ai mon personnage a de l'intuition, mettons, et beaucoup d'imagination. Mais et que lui, d'autre part, il veut pas non plus révéler directement sa tristesse. Il y a peut-être une pudeur, en fait, plus que tristesse, là, son désespoir à un moment donné. Par pudeur, il n'ose pas. Alors, il emploie justement des images. Il se sert beaucoup de l'environnement, les banquises qui fondent. Et lui, il est un ours polaire à la dérive sur sa banquise. Et elle comprend ça. Bon, peut-être que quelqu'un d'autre, non, mais c'est là justement l'intérêt, la fascination des mots qui peuvent avoir différents sens et avoir différents effets sur différentes personnes. C'est ça que j'ai voulu exploiter ou des mots qu'on entend, qu'on lit et qui nous permettent de nous ouvrir. Et
Ouais, c'est ça.
c'est ça qui arrive à Théo, justement, là.
C'est des belles images qui sont utilisées pour parler d'un sujet qui est très dur. C'est quand même un
Oui.
sujet difficile, le suicide, là, tu sais,
Oui, oui.
ou la dépression. Je ne sais pas parce que
Oui,
je ne connais pas les
ben,
intentions de Théo, mais
bon, il y
c'est un
a assez
sujet.
clairement des idées suicidaires. Il n'y a pas de plan, disons. Tout le monde m'a dit que c'était très doux, mais ça parle de ce
Ouais, ben
sujet-là
c'est
quand
ça.
même.
Mais
Oui,
tu sais, avec une
oui.
image comme là, l'ours polaire à la dérive, la première neige, ça reste des images très, très, très fortes, mais très douces.
Oui.
C'est un sujet qui...
Il parle de son pôle nord qui, au lieu de se réchauffer comme sur la Terre, se refroidit. Il sent un froid en lui. Alors, il parle par image et Marjorie comprend.
Ouais,
Pas
c'est ça.
immédiatement, évidemment, mais
Mais elle comprend quand
elle
même.
comprend. Oui.
Elle comprend quand même. Puis c'est ça, j'aime. Oh, c'est vraiment fascinant. Hein? C'est très intéressant.
Ben,
Puis là, je regarde
merci.
l'heure, puis c'est déjà l'heure.
Oui, on fait déjà
Pas
l'heure. Bon,
mal
ben, on a
ça.
parlé de
Oui.
choses
Oui.
intéressantes.
Ah oui, vraiment, vraiment. C'est ça, j'aurais aimé élaborer. Mais c'est ça, le sujet du suicide, c'est un sujet qui est tellement sensible en littérature jeunesse. Puis ça a l'air
Oui.
d'être vraiment très bien abordé là, dans ton roman. Puis là, ben, je vais dire la même chose. Je pense que je conclue tous les épisodes comme ça. Là. Je vais aller l'acheter. Je vais tous
Bon.
les acheter. Je vais avoir un droit de service de presse là-dessus.
Écoute,
ça n'a pas de bon sens.
Mais
ça a tellement l'air intéressant.
Je vais demander qu'on t'en envoie.
C'est gentil, mais je peux vous encourager. Je peux encourager aussi là, les auteurs, mais c'est vraiment un beau sujet. Là.
Merci.
Et fait de belles façons. Là.
Oui, tout dépend de la manière. Hein.
Mais c'est ça, c'est qu'on peut parler de tout. Je vais conclure là-dessus, je pense. On peut parler de tout. Moi, c'est mon opinion personnelle. Là. On peut parler de tout en littérature jeunesse. C'est le comment qui est important.
Exactement.
Comment on le fait qui est important.
Oui, oui. Et tu vas avoir un effet différent sur les personnes qui va peut-être faire accepter ce sujet-là. Pas le normaliser, mais faire en sorte qu'on peut en parler sans en avoir peur.
Il faut en parler.
En avoir
c'est ça, il faut en parler, ça ne donnera pas le goût, mais ça peut voir une lueur de, ça peut donner une lueur d'espoir à certaines personnes qui en ont besoin à ce moment-là. Là. Fait que j'espère que tout le monde qui a des idées noires va avoir accès à un beau carnet vert fluo comme ça. C'est génial. Marie-Hélène, merci beaucoup pour cette belle
entrevue. Merci beaucoup, Amélie.
Belle entrevue, ça a été un plaisir.
Et moi de même.
Je vous invite maintenant à rencontrer Sophie Huard, avec qui nous allons jaser d'enquête, d'intrigue et de voyage.
Alors maintenant, on reçoit Sophie Huard. Sophie qui est diplômée de l'Université Laval en administration. Elle a poursuivi une carrière en gestion marketing et expérience client. Au bout de 15 ans, elle a quitté son emploi, qui était dans une grande banque, pour mettre à profit sa créativité et elle s'est consacrée à l'écriture pour notre grand bonheur. Elle s'affaire maintenant à imaginer des histoires d'aventure où l'humour et l'amour sont au cœur de l'action. 7 jours tout inclus est sa deuxième série pour adolescents et c'est la première qui a été publiée aux éditions de La Bagnole. Alors nous allons parler du tome 2, Vent contraire, qui est pour les 12 ans et plus et qui est en librairie depuis le 29 septembre 2021. Bonjour Sophie, ça va bien?
Bonjour Amélie, oui ça va très bien, merci. Mmh. Merci pour la belle invitation.
Ah, mais c'est un plaisir. J'ai vraiment super hâte d'entendre parler de ta série parce qu'il y a l'air d'avoir beaucoup d'action, d'intrigue. Puis là, j'ai vu qu'il y a de l'amour. Moi, j'aime ça, les histoires d'amour.
Oui.
Est-ce que tu veux nous en parler, s'il te plaît?
Oui, absolument. Bien, en fait, juste pour mettre en contexte, 7 jours tout inclus, c'est une série où on va suivre deux jeunes agents secrets et leur mère, donc Samuel, Clara et leur mère. On va les suivre dans des missions autour du monde. Puis, ils travaillent pour le compte d'une organisation secrète privée qui s'appelle le SAFE, qui se consacre dans la protection et l'enquête. Donc, ils vont réaliser à chacun des tomes là, des missions à travers le monde pour le compte de cette organisation-là. Là, ce qui est du livre Vent contraire, là, on tombe dans leur première mission officielle. Alors, c'est leur première vraie mission à titre d'agent.
OK.
Et là, rien va arriver comme prévu. Là, c'est pour ça que ça s'appelle comme vent contraire. Là, dans le fond, ils sont mandatés par une dame pour retrouver ses bijoux précieux. Et dans le cours de l'enquête, elle croit que c'est son ex-mari qui les a volés. En fait, elle est absolument certaine que c'est lui. Puis là, en fait, nos agents vont découvrir qu'il n'a pas juste volé ça. Et qui s'apprête à faire quelque chose d'encore pire. Donc, ils vont rapidement là, tomber dans la cour des grands. Ils vont penser que, étant donné que c'est leur première mission, ça va être une petite mission de routine, ça va bien aller. Mais rien de tout ça qui va arriver. Puis, ils vont vite tomber, comme je dis, dans la cour des grands, où ils vont être confrontés à le plus terrible gang de motards de la Floride.
Okay, parce qu'ils sont en Floride.
Deadly Gator. Okay. Et ils vont vraiment tomber dans l'action, là, le danger, le risque. Ils vont devoir mettre tout à profit là, leur qualité d'agent là, pour résoudre cette enquête-là.
Super. Fait que là, c'est 12 ans et plus, mais les personnages ont quel âge?
En fait, on a Clara qui a 14 okay. ans. Et Samuel, qui a 16 ans, puis il y a leur mère aussi qui s'ajoute un peu à l'histoire aussi. Mais c'est principalement Samuel et Clara là, qu'on suit là, dans leur mission.
Donc, des frères et sœurs.
Des frères et sœurs, oui. Okay. Puis c'est intéressant parce que il y a tout l'aspect l'aspect là, de la fratrie, puis ils se taquinent ensemble, donc ils se lancent des défis. Il y a vraiment beaucoup d'humour qui se joue à travers tout ça. Puis évidemment, comme on suit des ados, c'est pas parce qu'ils sont dans le cadre d'une mission qu'ils n'ont pas leur vie sociale qui rebondit de temps en temps ou leur vie sentimentale. Donc, à travers ça, il y a de l'amour, des petites histoires d'amour, le grand frère qui donne des leçons de flirt à sa sœur. Puis tu sais, ça amène toutes sortes de situations cocasses. Ils échangent ça contre des tâches ménagères, tu sais, fait qu'on on des conseils amoureux contre des tâches ménagères, fait qu'il y a, comme tout l'aspect frère et sœur là qui est bien exploité là, autant dans l'humour là que puis aussi avec les amis d'école qui font surface, puis les prospects d'un et de l'autre aussi là dans leur histoire d'amour.
Est-ce que c'est secret là? C'est ça, c'est son secret.
C'est secret.
Leurs amis savent pas.
Donc,
là.
Dans leur quotidien, ils doivent jouer comme une double vie, là. Alors, ils peuvent pas, tu sais, c'est ça, ça les met un peu les pieds dans les plats parce qu'ils doivent quitter rapidement pour une mission ou, donc, ça amène des situations un peu cocasses aussi d'avoir à jouer une double vie puis cacher des choses à tes meilleurs amis d'école ou le prospect que tu fréquentes, là, le garçon que tu fréquentes. Donc, c'est ça. C'est intéressant de voir tout ça se mettre en œuvre, là.
Vraiment. Puis 7 jours tout inclus, moi, ça me sonne voyage. Donc, chaque tome se passe à un endroit dans le monde, c'est ça?
Oui, effectivement. Okay. Chaque tome est dans un endroit différent. Donc, le premier tome, l'action se déroulait au Mexique.
Okay.
Et puis là, leur mission les amène à suivre le suspect en Floride, à Palm Beach. Évidemment, il y a une partie qu'ils ne savent pas au départ, puis ça va les amener à devoir rapidement embarquer sur un catamaran puis se transporter à Nassau pour le reste de l'histoire. Donc, c'est ça qui est le fun aussi pour une série comme ça, pour un auteur, c'est qu'il y a tellement de possibilités. Donc, d'un tome à l'autre, je peux les amener à n'importe quel coin du monde, là. Donc, je trouve que c'est vraiment intéressant. Puis, autant pour les jeunes lecteurs aussi,
ça fait voyager le lecteur.
De voyager à travers aussi, là, en plus de l'aventure, du suspense, de l'action, tu as l'humour aussi, la partie sentimentale, mais tu as tout l'aspect voyage qui s'ajoute aussi. Puis, je prends vraiment le temps de faire beaucoup de recherches pour justement m'imprégner des lieux puis m'assurer que tout est crédible puis qu'on puisse bien se mettre dans l'ambiance de la place, là.
Donc, est-ce que tu es une grande voyageuse ou bien
voyager. Puis souvent, j'essaie de prendre des endroits où je suis déjà allée pour avoir un peu une idée, mais je fais quand même beaucoup de recherches. Là, je prends par exemple pour ce qui est de vent contraire, justement, même si je suis allée souvent en Floride, j'ai pris le temps de vraiment chercher ce qu'il y avait autour de Palm Beach pour les amener à faire des scènes intéressantes. Donc, j'ai découvert qu'il y avait un sanctuaire d'animaux pas très loin de leur hôtel. Donc, ça a amené à faire une scène là où ils devaient se lier d'amitié avec les filles du suspect. Et puis, il y en a une là-dedans qui c'est une grande protectrice des animaux. Donc, ils décident de l'amener là pour l'amadouer puis se créer des liens avec elle. Donc, c'est des choses comme ça que tu essaies de placer. Puis, en faisant des recherches, ça t'amène à avoir des idées aussi. Tu sais, évidemment, la Floride, c'est reconnu pour les Everglades. Je trouvais ça, les Everglades, les alligators, c'est un peu comme tension, danger, risque. Bon, évidemment, je les ai amenés là dans une scène, mais ça m'a donné l'idée aussi de créer les vilains, tu sais, le dangereux gang de motards. Je me suis dit, on va les amener dans cette thématique-là. Donc, je les ai appelés les Deadly Gators, dont la légende urbaine est qu'ils se débarrassent de leurs cadavres là, dans les Everglades et donnent en pâturage aux alligators. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi de pouvoir faire des recherches puis s'intéresser aux lieux puis s'intéresser où on va puis donner aussi le feeling vraiment au lecteur de où il est, puis ça ressemble à quoi, puis il fait quelle température, puis qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'on peut trouver comme attrait. Donc, je trouve ça le fun d'amener ça aussi aux jeunes de cet âge-là, de faire découvrir des parties de pays, puis
Surtout en ce temps-ci de pandémie où là, bientôt on va pouvoir voyager, espérons-le, mais qu'on n'a pas pu pendant un certain temps. Là. Moi, j'avais envie de revenir sur le tome 1 parce que là, j'ai entendu moi, au début de l'entrevue que c'est, le tome 2, c'est leur première vraie enquête. Donc, dans le tome 1, c'est comme ils sont amenés vers l'enquête sans...
Exact.
J'ai bien compris.
Okay. Oui, donc dans le tome 1, là, c'est une famille en fait monoparentale. Là. Évidemment, la mère ils sont vraiment là dans le fond du baril. Là. Quand tout commence, ils ont vraiment une situation financière précaire. La mère perd son emploi, le papa les a abandonnés un an plus tôt sans explication. Il y a vraiment des choses nébuleuses. Okay. Tout le monde a comme un peu passé cette tristesse-là puis ce choc-là en se rebellant un peu chacun à sa façon. Et c'est ça, dans le fond, ce qui déclenche le tome 1, l'action du tome 1, c'est que la mère a plus d'argent pour subvenir aux besoins de la famille, là, est endettée, tout ça. Et elle, c'est une ancienne joaillière, puis elle se fait offrir de fabriquer et porter un collier dans un gala au Mexique pour une grosse somme d'argent. Donc, évidemment, on se doute qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait qui est louche à travers tout ça, mais ils sont tellement pris à la gorge là, dans leur situation financière qu'ils acceptent. Et évidemment, ben, la mère amène ses deux enfants qui ont chacun leur petit côté rebelle. Là. Clara, elle a passé toute la séparation des parents en devenant un peu plus agressive. Puis son frère, lui, s'est mis à voler pour avoir quand même le train de vie qu'ils avaient avant. Donc, il se paye des marques puis toutes sortes d'objets qu'il ne peut plus se payer maintenant en volant. Donc, tout ça, ces deux petits rebelles-là, bien, mis... dans l'action au Mexique où il se passe plein d'affaires, ben on va utiliser là, leur petit côté rebelle là, à travers la mission, puis ça va les aider. Mais en fait, ils ne savent pas que c'est une mission. Là, donc, ils se font embarquer dans une aventure sans le savoir. Puis, ils vont utiliser là, leur qualité de survie qu'ils ont... qu'ils ont développé dans la dernière année là, pour mettre à profit l'enquête qu'ils ont à résoudre à ce moment-là.
Hey, wow! Ça a l'air bon! J'ai hâte de le lire! C'est vraiment intéressant. Je me demande, qu'est-ce qui t'a inspiré pour des enquêtes? C'est plus parce que tu voyais que... qu'est-ce qui t'a amené à écrire des livres d'enquête? Je trouve ça vraiment fascinant d'avoir choisi ça, là, tu sais. C'est sûr que ça pogne, là. Je suis sûre que les jeunes vont triper bien raide, tu sais. C'est le fun, là. Ça me ramène, me semble, à mes années quand on écoutait Les Intrépides, là.
Oui. On voulait être des Intrépides. Ben, en fait, c'est drôle parce que ça me fait penser aux livres que je lisais quand j'étais jeune, là. Tu sais, évidemment, les Bibliothèques Roses, le Club des Cinq, les Six Compagnons. Tu sais, j'ai grandi avec ça, puis j'ai toujours aimé ça, vraiment beaucoup, l'action, même dans les livres que j'apprécie beaucoup aujourd'hui, là. Tu sais, j'aime bien être devant un Dan Brown où t'es au bout de ta chaise tout le temps, là. Mais je dirais que, ben, en fait, la première série que j'ai écrite, c'était du fantastique, mais c'était vraiment mystère aussi, basé sur une légende, et puis on a une enquête à décortiquer à travers tout ça, action, suspense. Et 7 jours tout inclus, en fait, c'est la bagnole qui m'a approchée là, pour l'écrire. Oh, oui. J'avais, en fait, dans un concours de circonstances, j'avais envoyé un autre manuscrit, puis eux étaient à la recherche là, d'un auteur pour écrire une série jeunesse comme ça, là, d'aventure un peu style chérub, là, d'enquête, agent. Et c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, là, qui me passionne, là, les rebondissements. J'ai de la facilité avec ça, là, les ficeler une enquête et tout ça. Donc, puis l'action, ça bouge tout le temps. Donc, c'est évidemment, c'est du bonbon pour moi, là, écrire ça, 7 jours tout inclus. Puis, tu sais, je dis, c'est pour les jeunes, c'est tout inclus parce qu'il y a plein, il y a tout là-dedans, là. T'as l'action, l'humour, le petit côté amour à travers ça, le suspense, l'enquête. Mais pour moi aussi, là, c'est ça, je peux. C'est tout inclus pour un auteur aussi parce que tu peux faire des scènes de toute envergure, là, tu peux passer d'une scène d'école sur le bord d'un casier où tu jases des garçons à te retrouver, à découvrir une bombe.
Ben, c'est
ou
ça.
De taquiner avec son frère dans une cuisine, puis de 50 pages plus loin, t'es ensemble, les frères et sœurs, à voler une auto, tu sais. Fait que c'est ça qui est le fun. C'est tout inclus pour moi aussi, là, dans le fond, là. Donc, c'est vraiment du bonbon écrire ça.
Mm. Ah oui. Puis on parle, tu sais, moi, c'est ça, j'aime bien aussi la mention 12 ans et plus, tu sais, de plus en plus, là, mes romans, c'est pareil, je vais dire, c'est 13 ans et plus, 12 ans et plus, parce que les adultes ont du plaisir à lire ça aussi. C'est,
oui,
c'est
tout à fait.
C'est amusant. Puis, tu sais, les pages couvertures, moi, je les trouve très attirantes, autant pour les jeunes, mais aussi pour les adultes, là, c'est vraiment des très, très belles pages couvertures, là. J'ai trouvé très beau.
Oui, ils sont magnifiques. Ils sont vraiment magnifiques, là. Gros coup de cœur, là, pour, oui, toute la série 7 jours, tout inclus, là. Puis, le packaging, puis le graphisme et tout ça, là. La couverture est incroyable.
Oui, ouais, vraiment très belle. Puis, une petite dernière question, là. Je voulais savoir.
Oui.
Ben, premièrement, je ne sais pas. Est-ce que tu écris aussi pour les adultes?
Pas pour l'instant.
Oh,
ben,
okay.
Oui, en fait, ma première série, c'est vraiment classé adolescent et jeune adulte aussi, mais les
okay.
adultes ont vraiment aussi embarqué parce que c'est des personnages qui sont un peu plus vieux. Là. On se retrouve avec des jeunes dans le début vingtaine, là, 18, 19, 20, 21. Donc, c'est des jeunes adultes, donc ça amène des situations de vie d'adulte et
ouais.
Sont à résoudre une légende qui est devenue vraie, dans le fond, une légende sur le pont de Québec qui s'est mis à vivre, qui
wow.
est vraie. Et oui, j'ai eu autant d'adultes que de jeunes qui ont lu cette série-là puis qui se sont intéressés à cette série-là. Alors oui, évidemment, c'est classé comme plus jeunesse, jeune adulte. Mais oui, c'est pour adultes aussi. Là.
Parce que je me demandais pourquoi tu as fait le choix d'écrire pour les jeunes et plutôt que...
En fait, je dirais que, évidemment, il y a tout le temps la motivation de donner le goût de lire, là, de donner le goût de lire aux jeunes. Moi, la lecture, ça m'a vraiment apporté beaucoup, autant dans ma jeunesse là qu'actuellement encore. Puis c'est formateur, ça éveille la curiosité. Puis Ça a forgé la personne que je suis maintenant. Puis il y a ce volet-là de motivation de donner le goût de lire aussi aux jeunes. Il y a le fait que quand je me suis lancée là-dedans, ben mes enfants étaient dans cette période-là.
Okay.
Donc, je lisais énormément de livres jeunes adolescents, de séries avec eux, justement pour les motiver à lire puis qu'on en discute ensemble. Puis d'autre part, je dirais que ce que j'aime beaucoup aussi de cet auditoire-là, c'est que c'est vraiment intéressant puis agréable d'interagir avec eux, que ce soit dans les rencontres scolaires, les animations scolaires qu'on fait ou tout ce qui est les salons du livre et tout ça. Rencontrer ces jeunes-là ou qui s'émerveillent facilement, qui ont les étincelles dans les yeux, tu sais, ils te donnent un feedback instantané, puis c'est vraiment incroyable. J'adore ça, puis j'adore aller dans les écoles. Fait que oui, c'est ce qui motive mon écriture jeunesse.
Ah oui, je comprends tout à fait. Hey, merci Sophie, c'est tout le temps qu'on
merci
avait, c'était super
toi.
Intéressant. Alors, je vous invite à vous procurer là, la série 7 jours tout inclus. Le tome 2 vient de sortir, c'est Vent contraire, aux éditions de La Bagnole. C'est pour les 12 ans et plus, moi c'est sûr que je vais aller le chercher. Et c'est ça, il est déjà en librairie, donc merci beaucoup.
Merci beaucoup Amélie pour l'invitation.
C'est un plaisir.
Moi aussi.
Merci d'avoir été à l'écoute. Dans le prochain épisode, nous allons rencontrer Karine Barthelmy et Sylviane Thibault. C'est donc un rendez-vous.
Bye bye!